Merci Sonia et bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique consacré aujourd'hui au budget de l'État. Le projet de loi de finances sera présenté vendredi prochain en Conseil des ministres. Un texte très attendu, c'est le premier budget depuis la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement doit tenter une périlleuse acrobatie, réduire le déficit conformément à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, répondre à l'exaspération fiscale et financer les engagements pris à l'issue du grand débat. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a annoncé cette année encore un budget en faveur du pouvoir d'achat. Et cela alors que la France vient d'être sacrée par le FMI, championne de la zone euro des dépenses publiques. Le budget 2020 portera-t-il un gilet jaune ? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h50, on retrouvera la bibliothèque de l'Écho. Marguerite Caton a rencontré Kako Nubuko, l'auteur de L'urgence africaine, paru il y a quelques jours chez Odile Jacob. Et pour parler des finances de l'État, trois invités autour de la table. Bonjour Marcel Foucault.
Bonjour.
Vous êtes politiste, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et auteur d'un article sur les préférences budgétaires des citoyens, écrit avec Sylvain Brouard. Pour discuter avec vous, Virginie Pradel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fiscaliste, fondatrice de l'Institut Vauban. C'est un think tank consacré à la fiscalité et autrice d'Impomania, l'absurdité fiscale française, parue ce mois-ci aux éditions de l'Observatoire. Également autour de la table, Pierre Calfa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, économiste, membre d'ATAC, ancien président de la Fondation Copernic, un cercle de réflexion qui se veut critique à l'égard du néolibéralisme, et co-auteur de Cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir, publié en mars dernier. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Le budget que je vais présenter en 2020 avec Bruno Le Maire, c'est la plus grande baisse d'impôts prévue dans un budget de la République. 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu, la continuité de la baisse de la taxe d'habitation, la continuité de la baisse de charges pour les entreprises et pour les particuliers, la suppression des cotisations, et puis d'autre part, on réduit le déficit. C'est vrai que la France est l'un des plus mauvais élèves si on regarde les comptes publics, et depuis très longtemps, moi je suis né en 82, on était déjà en déficit. Donc ça fait quasiment 40 ans qu'on est en déficit chronique et qu'on a des mauvais comptes publics. Il y avait un article pour montrer que la France avait le meilleur système de santé du monde. Et il y a peut-être un lien entre le fait qu'on ait le meilleur système de santé du monde, le meilleur système de protection sociale du monde, le meilleur système des retraites quasiment du monde, même s'il connaît des difficultés démographiques du fait de la pyramide des âges, d'où la réforme de Levoix, et d'autre part des dépenses publiques très fortes, et donc des impôts très élevés pour payer ces dépenses. Il faut savoir ce qu'on veut.
Faut savoir ce qu'on veut. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Les principaux arbitrages du budget 2020 ont été dévoilés il y a quelques jours. Le projet de loi de finances prévoit au total une baisse d'impôts de 9,3 milliards d'euros pour les ménages. Alors après un hiver qui a été marqué par la crise des Gilets jaunes, le gouvernement cherche à montrer que leur colère a été entendue, Martial Foucault.
En tout cas, c'est la manière dont ce budget est présenté aujourd'hui par l'exécutif. Quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est vrai que les évolutions sont peut-être pas aussi marquantes que le ministre des Comptes Publics le suggère. Je dirais qu'avant tout, c'est vrai qu'un budget, c'est un acte politique très très fort. Au-delà d'une technique budgétaire, financière, ça engage un gouvernement sur des priorités d'action publique et aussi, je crois que c'est le plus important, une hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle ne peut pas faire l'impasse sur ce qui s'est produit l'hiver dernier. Donc même si les annonces de décembre et du mois d'avril ont indiqué un effort budgétaire considérable, moi je me méfie toujours des projets de budget qui vont être votés au Parlement dans les prochaines semaines avec le budget réellement exécuté. Et donc, il peut y avoir toutes sortes de correctifs. Donc, je dirais qu'une certaine manière, donnons-nous rendez-vous dans 8 mois dans le même studio pour voir si ce qui est annoncé aujourd'hui a été confirmé dans l'exécution du budget. Mais globalement, pour répondre à votre question, est-ce qu'il répond adéquatement à la question sociale posée l'hiver dernier ? je vois pas de grande différence. C'est-à-dire que il y a une évolution, il y a peut-être une inflexion, mais il n'y a pas un tournant, je dirais un tournant social au regard de la crise.
Alors en 2018, il y avait eu une baisse fiscale de seulement 1,1 milliard d'euros et au bénéfice avant tout des plus fortunés. On peut tout de même se demander, Virginie Pradel, si on assiste à l'heure actuelle à un tournant.
Ah non, moi je suis d'accord avec monsieur, il n'y a pas de tournant, c'est sûr qu'on a des mesures fiscales, alors c'est très important, hein, les gens sont très focalisés sur ça, qui symboliquement sont davantage portées sur les ménages que sur les entrepreneurs et les plus privilégiés. Après, il faut quand même rappeler qu'on est un pays où les prélèvements obligatoires ont dépassé 1 000 milliards d'euros. Hein, donc là, on parle de 9 milliards. Sachant que à défaut d'économie structurelle, bah, on est toujours dans le jeu de vases communicants, à savoir que c'est une baisse pour les ménages les plus précaires, mais financée par les entreprises et peut-être aussi par d'autres ménages plus aisés. Hein, parce qu'on voit qu'on essaie de rogner les niches fiscales de ceux qui gagnent le plus. Et comme monsieur disait, il faut faire très attention parce que entre ce qui est proposé dans le projet de loi de finances initiale et ce qui est voté fin décembre, il y a beaucoup de changements, il y a des amendements qui surviennent, des impôts qui surgissent, voilà, donc il faut faire très attention.
C'est avant tout un message politique pour le moment, ces 9,3 milliards de baisses fiscales qui sont annoncées, Pierre Calfat.
Je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et une légère inflexion, mais une légère inflexion qui en fait touche une partie précise de la population. Prenons la baisse de l'impôt sur le revenu, 5 milliards, l'impôt sur le revenu n'est payé que par 43% des contribuables. Donc il y a quasiment 60% des contribuables, qui les plus démunis, hein, qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu, qui ne sont pas concernés. Et donc il y a un choix en fait qui a été fait par le gouvernement pour essayer de répondre à la crise des gilets jaunes qui a mobilisé en fait une partie des classes moyennes intermédiaires. Bon, j'aime pas trop le terme de classe moyenne, je l'emploie par facilité de langage, mais et donc en donnant ce signal là mais dans les faits, hein, la majorité de la population est aujourd'hui oubliée.
Alors cette année, en 2018, l'allègement fiscal s'est élevé à 10,2 milliards d'euros grâce aux mesures prises par l'exécutif et notamment la baisse de la CSG pour les retraités modestes. Au total, l'objectif de l'exécutif, c'est de réduire la pression fiscale de 27 milliards d'euros en tout pendant le quinquennat. Alors évidemment, il va falloir voir si ces promesses sont tenues, Martial Foucault, mais si c'est le cas, ces baisses d'impôts seront les plus importantes depuis 20 ans.
Oui, c'est vrai que raisonner en valeur absolue cette baisse annoncée, en tout cas c'est un projet, moins 27 milliards, vous l'avez rappelé, et la baisse la plus importante, mais qui, au fond, quand on regarde relativement les choses, reste encore très très élevée, mais qui est un choix pour moi, c'est fondamental, c'est un choix politique, c'est-à-dire que derrière cette question de la fiscalité et des recettes se pose la question du modèle d'État et du modèle de j'allais dire presque d'État social que la France souhaite. Et quand on se souvient de l'entrée en exercice d'Emmanuel Macron, l'intention était probablement plus volontariste qu'elle ne l'est devenue au regard de cette crise. Et donc parler d'un acte 2 de son gouvernement implique de voir si les intentions politiques sont associées à des faits, à des engagements budgétaires.
Vous dites choix politique, est-ce que c'est pas aussi un choix économique, Pierre Calfat, avec cette idée que finalement, si on diminue les impôts, on privilégie la relance par la consommation, et en l'occurrence, l'idée de réduire la dette a été repoussée. Gérald Darmanin a dit « nous avons préféré baisser les impôts plus vite que le déficit ».
Mais il y a deux questions qui sont différentes. D'abord, est-ce que il faut baisser les impôts, hein, du point de vue du type d'État social que nous voulons construire ou que nous voulons reconstruire, parce qu'il a été quand même bien abîmé. Pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir une fiscalité qui soit une fiscalité de haut niveau, mais une fiscalité qui soit plus juste. Or, le problème qu'il y a aujourd'hui, ce qu'a exprimé d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes, c'est le sentiment d'injustice fiscale. Donc, ce que propose Emmanuel Macron et ce propose le gouvernement ne répond pas à ce sentiment d'injustice fiscale. Et donc, il y a un problème majeur en la matière. Et ce sentiment d'injustice fiscale, par exemple, a été, mis en évidence par la suppression de l'ISF, la flat tax sur les revenus du capital, etc. etc. Bon. Donc, ça, c'est le premier problème. Ensuite, on peut baisser certains impôts en pensant qu'en relançant la consommation, on rentre dans un cercle vertueux. Bon, les gens vont consommer plus, donc il va avoir une relance économique qui va permettre des nouvelles embauches, donc de nouvelles recettes fiscales, etc. Donc, on voit bien la logique. Mais pour ça, il faut que les gens qui sont touchés par ces baisses d'impôts consomment. Mmh. Ils n'épargnent pas. Bon, c'est-à-dire que il y a dans l'arbitrage consommation et épargne, il faut qu'il y ait un choix qui soit fait pour la consommation. Et donc pour ça, il faut évidemment cibler les baisses d'impôts sur les plus démunis qui eux consommeront l'entièreté de ces baisses d'impôts.
Virginie Pradel, sur les effets économiques qu'on peut attendre de ce budget 2020.
Une relance de la consommation. Alors moi, je voudrais juste rebondir juste sur quelque chose qui vient d'être dit. J'entends souvent parler de justice fiscale et je tiens quand même à rappeler que c'est une notion qui est éminemment subjective et éminemment relative, à savoir que chaque pan de la population a son propre sentiment de justice fiscale. Et il faut quand même rappeler que les personnes les plus aisées dans ce pays font quand même l'objet d'une fiscalité. Je parle notamment aux propriétaires fonciers désormais, qui, quand on le voit dans le détail, comme j'ai pu le faire, peut apparaître confiscatoire.
Donc, c'est sérieux.
Là-bas, aujourd'hui, un propriétaire foncier peut être taxé jusqu'à 100% de ses revenus immobiliers, monsieur. Donc, excusez-moi, c'est quand même pas une fiscalité.
En l'occurrence, le choix qui a été fait, c'est de diminuer les impôts en partie des classes moyennes et pas d'augmenter les impôts des entreprises.
Oui, exactement. Alors, après, Emmanuel Macron est revenu sur sa promesse relative à la baisse de l'impôt sur les sociétés qu'il avait faite, à savoir qu'il est revenu dessus pour les plus grandes entreprises.
Bon, c'est simplement reporté.
C'est reporté, mais renvoyé parfois au calende grec.
Reporté simplement.
On ne sait pas quand on dit toujours ça, on dit toujours qu'on va reporter. Et juste sur la baisse de 27 milliards d'euros, il faut rappeler quand même que c'est une baisse hypothétique dès lors qu'elle prend, par exemple, en compte la suppression de la taxe d'habitation pour les plus aisés. Là encore, elle n'a pas commencé et on sait que le gouvernement change rapidement d'avis.
Martial Foucault.
Oui, non, je voudrais revenir à un point parce que pour moi, ce qui est assez frappant, peut-être une leçon qui n'a pas été tirée par ce gouvernement et Emmanuel Macron, dont on dit qu'il a un intérêt fort pour la philosophie. Quand on pense à cette crise, a quand même été évoqué le rôle de la consommation à la fois dans le discours et dans les actes. Alors construire un budget pour redonner, et ce sont les mots qui sont employés, du pouvoir d'achat à certaines catégories de Français, ne pose pas le problème de quel type de consommation souhaitons-nous puisqu'il y a aussi un enjeu environnemental, bien sûr, de pouvoir d'achat, mais aussi un enjeu environnemental. Et c'est vrai que le modèle consistant à dire la création des richesses ne repose que sur un modèle qui est tiré par la consommation des individus, à mon avis, pose une difficulté et met de côté l'idée d'un modèle construit sur la consommation. Emmanuel Macron ne répond pas, et son gouvernement non plus, à la question qui pour moi devient épineuse, qui est de savoir si des modèles alternatifs à la création de richesses, sans orienter toutes les ressources, y compris fiscales, vers la consommation, peut voir le jour. Et finalement, en répondant à cette question, on pourrait aborder de façon un peu plus globale la question notamment d'une fiscalité environnementale, sans qu'elle paraisse comme étant, finalement, d'une certaine manière, et c'était employé par une ancienne ministre, comme punitive. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais il faudra réfléchir assez rapidement à sortir de ce discours consistant à dire la croissance ne repose que sur la consommation.
Venons-en justement à cette question de la fiscalité environnementale. Le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est un organisme rattaché à la Cour des comptes, vient de rendre un rapport sur le sujet et préconise d'augmenter la fameuse taxe carbone. Alors on se souvient que la hausse de la taxe carbone au 1er janvier 2019 avait été abandonnée face à la colère des Gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait l'augmenter selon vous, Pierre Calfa? Et si oui, de quelle façon, pour la rendre plus acceptable, là où elle a été jugée particulièrement injuste?
Le problème de la transition écologique, c'est qu'elle ne peut pas reposer simplement sur la fiscalité et sur les signaux prix. Bon. Elle nécessite avant tout des investissements publics massifs. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir.
C'est une manière de financer ces investissements publics massifs, justement.
Le problème, c'est que la fiscalité écologique n'a qu'un effet limité sur le changement des comportements des consommateurs. Bon. Par exemple, l'augmentation de la taxe carbone sur l'essence, on sait que ça a un effet extrêmement faible. D'abord parce que les plus riches absorbent très facilement cette augmentation, ne changent pas leur comportement, et que pour beaucoup d'autres personnes, comme l'a montré la crise des Gilets jaunes, ils n'ont pas de choix que d'utiliser leur voiture. Donc les effets concrets de l'augmentation de la taxe carbone sont faibles. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises les plus polluantes sont de fait exonérées de la taxe carbone.
D'où la nécessité peut-être effectivement de la repenser, cette taxe, pour qu'elle soit plus généralisée.
Oui, mais il y a surtout un autre problème qui existe aujourd'hui au niveau européen, c'est que tous les sites les plus polluants, les entreprises les plus polluantes, sont assujetties au marché des droits à polluer. Qui est le marché des quotas au niveau européen, qui est un marché totalement dysfonctionnel, dans lequel une grande partie des quotas qui sont attribués aux entreprises sont attribués de façon gratuite, avec un prix du carbone qui est extrêmement bas. Et donc, de fait, la plupart des entreprises les plus polluantes, aujourd'hui, ne participent absolument pas à la lutte contre le réchauffement climatique.
Donc, c'est un problème. De quelle façon, justement, on va faire peut-être circuler la parole, Virginie Pradel, de quelle façon on peut repenser peut-être cette taxe carbone, même si, effectivement, le gouvernement, à l'heure actuelle, n'envisage pas de hausse de cette taxe carbone en 2020. Il faudra regarder ça de près. C'est ce que la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a annoncé. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Mais écoutez, moi je suis très opposée à la taxe carbone telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'elle a un périmètre très restreint, du fait des exonérations nombreuses qui existent. Donc elle peut être vécue elle est même vécue comme une injustice dès lors que vous avez beaucoup de secteurs qui sont exonérés. Alors soit pour protéger ces secteurs, soit en raison du risque de fuite carbone, parce qu'il faut savoir que la taxe carbone n'est pas une taxe universelle. Elle existe en France, mais par exemple elle n'existe pas en Allemagne. Et il faut aussi rappeler que les principaux pollueurs dans le monde n'ont pas adopté cette taxe. Alors je ne dis pas qu'il faut rien faire pour l'écologie, mais je suis aussi dubitative sur
qu'est-ce que vous répondez à la Cour des comptes qui dit sans augmentation de la taxe carbone, la France n'atteindra pas ses objectifs climatiques?
Alors déjà, le rapport est assez contradictoire, parce que je l'ai lu, parce que d'un côté, la Cour des comptes nous dit qu'on est un bon élève en matière de fiscalité énergétique, parce qu'il faut savoir que ça a rapporté des milliards depuis que la taxe carbone a été instaurée, et qu'elle a fait flamber la TICPE, enfin toutes les taxes qui portent sur les énergies fossiles. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir des objectifs pour qu'ils soient plus réalistes et qu'ils prennent en compte les difficultés de la population qui se sent quand même asphyxiée par cette taxe carbone jusqu'à se révolter pendant des semaines et des semaines dans la rue.
Alors comment est-ce qu'il faudrait inventer cette taxe carbone? Martial Foucault l'a réinventée peut-être pour que justement elle n'aggrave pas les inégalités sociales et territoriales, comme on a pu le voir au moment de la crise des Gilets jaunes.
C'est toute la difficulté d'imaginer, de concevoir un dispositif dit de fiscalité pour changer les comportements. Ça, c'est peut-être un premier objectif. Et on sait, ça a été dit, parfois ça réussit, parfois ça échoue. Et puis, un deuxième objectif, au-delà de changer des comportements, c'est de satisfaire un objectif issu de l'accord de Paris. Et là, je dirais qu'il n'y aura aucune recette et aucune formule magique pour combiner ces deux objectifs. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, je dirais que chaque citoyen français n'est pas, d'une certaine manière, égal devant des activités, soit de consommation ou de production, qui produisent, on va dire, du CO2. Donc, il y a une véritable inégalité. Donc, imaginer un dispositif qui pourrait s'appliquer à chacun me paraît être la fausse bonne idée.
Donc, il faut un impôt vert qui soit progressif ?
Progressif, là, ça permettrait de répondre à une question de justice fiscale. Mais encore une fois, les éléments de justice fiscale, peut-être que ce gouvernement a sa propre conception de la justice fiscale qu'un prochain gouvernement n'aura pas. Et puis, deuxièmement, il faut bien voir, je crois que le gouvernement a peut-être... oublier un élément essentiel qui est au fond adhérer à une fiscalité nouvelle implique d'une certaine manière, de construire aussi un discours vers lequel cette fiscalité va porter ensemble une société. Et ça, on n'a pas eu. On a finalement aujourd'hui l'idée, il y a un accord de Paris, il faut respecter cet engagement, on n'a pas le choix. Bon, ben, je crois que ça mobilise pas véritablement les foules autour de cette de ce moyen.
La finalité, c'est de flécher justement ces différentes recettes. Si Pierre Calfa,
il y a un aspect contradictoire.
On voit qu'elles servent à la transition énergétique réellement.
Oui, mais il y a un aspect contradictoire. Soit on fait une taxe carbone pour changer les comportements des individus, des ménages. Bon, et à ce moment-là, si cette taxe carbone est efficace, eh bien ces recettes vont baisser. Petit à petit, la taxe carbone les revenus tirés de la taxe carbone vont dépérir petit à petit. Soit on fait une nouvelle taxe pour financer la transition écologique, mais c'est pas le même projet. Mmh. Et on peut pas tenir les deux objectifs à la fois. Le second point, c'est que je pense que si on ne peut pas raisonner chaque impôt indépendamment les uns des autres. Et donc, si on veut avoir une taxe carbone qui soit acceptée par la société, en particulier par les classes moyennes et populaires, il faut une refonte de la fiscalité qui soit une refonte de la fiscalité globale et qui permette de rétablir une justice fiscale. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que la justice fiscale, c'est relatif. Évidemment, bon, c'est un choix politique de privilégier telle ou telle catégorie. Quand le gouvernement supprime l'ISF, eh bien, il privilégie une catégorie particulière qui sont les plus riches. Quand il taxe les revenus du capital avec une flat tax à 30%, il privilégie les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Ce sont à chaque fois des choix politiques.
Virginie Pradel.
Oui, alors je voulais juste faire une petite précision par rapport à la taxe carbone. C'est très intéressant parce que on voit que alors, cette taxe carbone a été instaurée dans différents pays où elle a failli l'être. Et on voit que ça a posé de nombreux problèmes, alors, du moins dans certains pays. Et en fait, ce qui s'est passé en France, enfin ce qui se passe en France autour de la taxe carbone, rappelle vraiment ce qui s'est passé en Australie en 2011. Et ça a abouti, enfin en fait, il y a eu des manifestations pendant plusieurs semaines et ça a abouti à la démission du Premier ministre de l'époque.
Et en fait, peut-être parce que là aussi, elle a été mal expliquée.
Exactement. En fait, quand vous dites taxe carbone, je pense que les Français perçoivent cet impôt comme un impôt sur la consommation et même pas comme un impôt qui pourrait améliorer l'environnement.
Et puis, en l'occurrence, le prix du pétrole a bondi après les attaques sur les sites de production en Arabie Saoudite ces derniers jours. Alors, face à cette instabilité des cours du pétrole, on peut aussi se demander s'il serait possible de mettre en place une TICPE, donc cette fameuse taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui soit flottante. C'est une idée qui avait pu être apportée à Martial Foucault.
Oui, mais en fait, finalement, les deux sujets sont liés. C'est-à-dire que ce qui manque aujourd'hui dans la rhétorique du gouvernement autour de la taxe carbone, et qui pourrait être un argument compréhensible pour le plus grand nombre, c'est de dire le produit de cet impôt aura tel et tel usage. Si on explique, et je ne suis pas un spécialiste de fiscalité écologique, mais il me semble qu'aujourd'hui, il semble acquis. Et moi, j'ai souvenir quand je vivais au Canada entre 2006 et 2013, un premier ministre qui avait fait campagne sur la question de la fiscalité écologique et son adversaire Stéphane Dion pour le Parti libéral avait totalement perdu cette élection sur un sujet, la fiscalité écologique. Pourquoi ? Parce que quand on n'explique pas quel va être l'usage, la destination du produit de cet impôt, évidemment, chacun se représente fiscalité écologique comme un impôt supplémentaire. Mmh. Or, si on explique que cet impôt, le produit de cet impôt va permettre des investissements dans le logement, une amélioration des transports, évidemment, ça change totalement le rapport que l'on a avec une population.
Le rôle de l'impôt, c'est de développer, de tous les impôts, c'est de développer les services publics, de développer les infrastructures, etc. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, de particularité sur la taxe carbone par rapport à d'autres impôts qui sont théoriquement, je dis bien, utile à la collectivité.
On va laisser venir Martial Foucault.
Oui, alors, oui et non, parce que si vous voulez, si cet impôt, il est présenté dans un moment où le gouvernement dit aussi on a un objectif de réduction de la dette publique. Évidemment,
mais c'est chacun, ça qui est discutable.
Mais chacun peut se représenter cet impôt comme étant un instrument servant une autre cause que le thème même de l'impôt. Et donc, du coup, on va avoir un rejet vis-à-vis de cet impôt.
Justement, sur cette question de la réduction de la dette publique, on a parlé des différentes taxes, les différents impôts qui étaient abaissés. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, des 9,3 milliards d'euros annoncés, vous l'avez dit, il y a la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, la dernière étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français qui représente 3,7 milliards d'euros, et puis les mesures d'exonération et de défiscalisation des heures supplémentaires. Tout cela fait un total de 9,3 milliards d'euros. Mais alors, on peut se demander, à Martial Foucault, quel est le coût politique de cette décision de baisser les impôts et du coup de repousser la baisse de la dette à 2021, comme ça a été annoncé?
Oui, il y a un élément qui est très conjoncturel aussi, qu'il faut rappeler, c'est que malgré les annonces d'augmentation des dépenses publiques par Emmanuel Macron, il y a une conjoncture favorable en ce sens où, sur un autre enjeu, une autre promesse d'Emmanuel Macron de réduire le déficit public et donc la dette publique, il y a une conjoncture qui est liée à des taux d'intérêt très très bas.
La France devrait réaliser 2 milliards d'euros d'économies en 2019 sans faire le moindre effort finalement.
Voilà, donc vous voyez, par exemple, si pour reprendre la mesure concernant visant à supprimer pour 80% des ménages français assujettis à la taxe d'habitation, c'est presque la moitié du chemin qui est assuré sans rien faire. Donc c'est un élément qui est pas propre au prochain budget. Globalement, pour les deux prochaines années, les taux sont anticipés comme étant négatifs. Donc maintenant, sur la diminution, quel est le sens politique que l'on doit donner à ces diminutions? Moi, je dirais que on n'a pas une orientation très très claire. C'est-à-dire, ça touche à la fois un petit peu les entreprises. La diminution est plus faible que celle qui est annoncée. On n'arrivera pas au 28% du taux d'imposition sur les sociétés. Ça sera un peu plus élevé. Quant aux ménages, 80%, on déplace le problème quand même sur la baisse des impôts par la taxe d'habitation, parce que la taxe d'habitation n'est assurée aujourd'hui, enfin n'est payée que non pas par 100% des Français. Donc là aussi, on ne touche pas l'ensemble des Français et on va également reporter ça vers les collectivités locales. Donc on déplace le problème. L'engagement,
c'est-à-dire
que la responsabilité politique de ce budget, elle n'est pas totalement dans les mains de ce gouvernement. On déplace auprès d'autres administrations publiques.
Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Calfa? On déplace le problème auprès des collectivités locales?
Je voudrais, si vous permettez, avant revenir sur la question de la dette et des taux d'intérêt, parce que ça me paraît tout à fait décisif. Je pense que le choix qui a été fait par ce gouvernement, et que Gérald Darmanin d'ailleurs a exprimé très fortement à plusieurs reprises, est totalement erroné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt à 10 ans sont négatifs. C'est-à-dire que la France s'enrichit en empruntant. C'est des circonstances tout à fait exceptionnelles. Bon. Au lieu de profiter de cette conjoncture pour emprunter massivement, pour investir notamment, bon, le gouvernement refuse de le faire. Donc je pense que c'est une erreur tout à fait tragique. Hein. Et pour aller encore plus loin, je pense qu'un bon État, c'est un État qui s'endette. Ce n'est pas un État qui est en équilibre budgétaire permanent. Si on veut investir pour l'avenir, si on veut réussir la transition écologique, investir dans les infrastructures, dans la santé, l'éducation, etc., c'est tout à fait logique, économiquement et politiquement tout à fait normal, que le fardeau soit partagé par toutes les générations.
Et en même temps, la dette publique française représente en ce moment 100%, presque 100% du PIB.
Mais
je voudrais simplement entendre Virginie Pradel sur cette question de la nécessité de s'endetter et de profiter de ces taux bas pour investir effectivement dans l'activité économique.
Écoutez, moi je suis pas très favorable à l'endettement. Bon, alors après, il faut dissocier l'investissement dans les infrastructures pour être très
mais avec les taux bas, c'est peut-être le bon moment.
Oui, mais on a déjà on a quand même déjà emprunté massivement, hein. Il y a 10 milliards d'euros qui ont été empruntés. Je pense qu'on peut pas vraiment aller plus loin et qu'il faudrait quand même réfléchir à faire des économies là où elles peuvent être faites et à utiliser l'argent pour investir dans des secteurs qui devraient faire l'objet d'investissements massifs, notamment les hôpitaux, les infrastructures, les services publics que les Français sont de plus en plus nombreux à trouver.
Mais aujourd'hui, même l'OCDE appelle à faire de la relance budgétaire. Alors on peut se demander si effectivement le temps n'est pas venu pour cela, Martial Foucault.
Oui, parce qu'il y a eu sans doute une erreur commise après la crise de 2008, où finalement, à suivre les recommandations, notamment du FMI, puisqu'on en a parlé en introduction, et on a encore souvenir des propos de son chef économiste de l'époque, Olivier Blanchard, disant... 6 ans plus tard, finalement, on a commis une erreur. On n'aurait jamais dû demander à des pays d'engager un assainissement aussi rapide. Mmh. C'est pas le principe, c'est le séquençage aussi rapide des pays, notamment comme la Grèce, comme le Portugal ou l'Irlande. Mais une fois dit cela, je dirais qu'il y a aussi un élément qui, moi, est toujours fascinant dans la rhétorique politique quand on parle de finances publiques. Tout le monde s'accorde à dire que l'investissement, effectivement, c'est une bonne dépense publique. Mais n'oublions pas, et donc, à l'inverse, les dépenses de fonctionnement, rémunération des fonctionnaires, fonctionnement de, j'allais dire, tout ce qui relève des transferts, ça c'est une dépense qui serait moins productive pour l'avenir. Mais n'oublions pas quand même une chose, de l'investissement, construire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures, je ne sais pas comment fonctionne un bâtiment sans enseignants pour une école. Je ne sais pas comment fonctionne un hôpital sans infirmiers, sans médecins dans ces bâtiments. Donc il faut faire très attention de ne pas vouloir impérativement considérer l'investissement comme la pierre philosophale de toutes les questions de finances publiques, sans y voir que derrière, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont en charge de faire fonctionner ces services publics. Je ne dis pas par là qu'il faut impérativement ne pas toucher aux dépenses de fonctionnement. Et d'ailleurs, les collectivités locales, depuis 5 ans, ont fait cet effort. Donc, il est possible de le faire. Mais n'oublions pas qu'on ne peut pas écarter, séparer à ce point dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement.
Et puis, la colère des Gilets jaunes s'est exprimée aussi contre ce recul des services publics. Pierre Calfa, vous voulez...
Non, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est très difficile de distinguer absolument ça. Bon, on peut le faire, mais c'est évidemment compliqué pour les raisons qui vient d'être dit. Je voudrais revenir sur un indicateur qui est souvent mis en avant, que vous venez d'évoquer, qui est la dette publique, c'est 100% du PIB. Bon, quasiment, hein, 98% aujourd'hui. Bon. Mais le problème de cet indicateur, c'est qu'il mesure des choux et des carottes, hein, puisque la dette publique, c'est un stock. Bon, et en plus, c'est un stock hétérogène, puisque c'est des dettes de maturité différente, qui ont été empruntées à des moments différents, avec des taux différents, et qui rapportaient un flux. Donc, on compare un stock et un flux, c'est totalement absurde d'un point de vue économique. Bon. Ce qu'il faudrait comparer, bon, c'est effectivement deux flux, par exemple, la charge de la dette, bon, avec la richesse créée en un an, c'est-à-dire avec le PIB. Et là, on voit, hein, puisqu'il y a une baisse des taux d'intérêt, qu'en fait, la charge de la dette baisse régulièrement, et aujourd'hui, bon, elle a encore baissé.
C'est la question de la trajectoire qui vous paraît le plus importante.
Oui, absolument. Et surtout, il faut bien comprendre qu'un État, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un ménage. Un État ne rembourse jamais sa dette. Hein, quand un titre public vient à échéance, il fait rouler sa dette et il emprunte un nouveau titre. Bon. Donc, on n'est pas du tout comme un particulier emprunte, par exemple, pour acheter un appartement. Il rembourse à la fois les intérêts et une partie du capital emprunté. Pas l'État.
Hein. Mais on peut tout de même se demander si une dette publique à hauteur de 100% du PIB, c'est trop. On peut comparer, par exemple, avec l'Allemagne, qui est plutôt autour de 60%, avec l'Italie, qui est plus proche des 135%
si vous voulez,
du PIB.
C'est pas la hauteur de la dette qui crée des problèmes. Par exemple, l'Argentine a une dette très faible, bon, en dessous des 60% du PIB. Elle n'arrête pas d'avoir des problèmes en permanence et aujourd'hui encore.
Alors que le Japon, par exemple, a 250%
du PIB et il n'a aucun problème. Donc le problème, c'est les taux d'intérêt, la trajectoire des taux d'intérêt et est-ce que les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation, sont supérieurs ou pas au taux de croissance de l'économie.
Voilà, Virginie Pradel, sur ce taux de 200% en France et un taux qui vous paraît trop élevé, inquiétant, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est inquiétant parce que on est toujours tributaire des créanciers d'une remontée des taux d'intérêt. Enfin, c'est quand même quelque chose qui n'était pas inévitable et ça a été souligné que ça pourrait poser des problèmes à l'avenir. Après, on peut pas dire non plus que la dette ne représente aucun problème dès lors que vous devez quand même rembourser des intérêts chaque année, quand bien même ils viendraient à être réduits hein, par des taux d'intérêt minorés, et que quand vous remboursez une dette, bah ça fait moins d'argent pour les hôpitaux, moins d'argent.
enfin moins d'argent pour les services publics en général, et c'est quand même difficile à faire accepter à une population.
Ce qu'on constate en même, Martial Foucault, c'est qu'ici, il y a en quelque sorte une volonté, enfin disons la possibilité de s'aliéner une partie de son électorat de droite pour Emmanuel Macron en prenant cette décision de repousser la diminution de la dette.
Oui, enfin, je dirais ce nouvel électorat de droite depuis 2 ans et demi. Pour moi, c'est un élément très intéressant. On avait mené avec mon collègue Sylvain Brouard une expérimentation il y a 1 an et demi sur les formes de représentation et de préférence des Français en matière de dépenses publiques. Et on avait été très surpris dans les résultats qui tiennent en 2 phrases. Tout d'abord, il y a une forme de consensus de la part de l'ensemble des Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, si ce clivage a encore du sens, et je le pense, autour de trois types de dépenses publiques, consensus autour des questions de santé, de retraite. Les Français ne veulent pas une baisse des dépenses permettant d'assurer un niveau de santé satisfaisant et l'avenir de leur pension. En revanche, on a sur un critère très partisan un conflit politique autour d'un certain nombre de dépenses, et notamment les dépenses de défense, donc là on est dans le régalien, des dépenses de tout ce qui est prestations sociales. Là, il y a un vrai clivage aujourd'hui parmi les Français selon qu'ils sont de droite ou de gauche. Et puis aussi, on avait été frappé sur les questions environnementales, où on voyait finalement un clivage se creuser entre un électorat de droite, voire d'extrême droite, qui considérait que ce n'était pas prioritaire. Et pour moi, c'est important parce que ce budget, pour répondre vraiment à votre question, est-ce qu'il va satisfaire ou décevoir le nouvel électorat de droite d'Emmanuel Macron? Je dirais qu'aujourd'hui, tel qu'il est présenté, il ménage d'une certaine manière cet électorat parce qu'il y a une petite baisse de fiscalité. Ça résonne activement pour un électorat de droite. Et pour un électorat de gauche ou centre-gauche, on voit qu'il y a un effort de dépenses publiques qui est plus important que ce qui avait été annoncé en 2017 en termes de trajectoire pendant les 5 années.
Alors justement, entrons un peu dans le détail des économies que compte faire le gouvernement. C'est Bercy qui devrait perdre le plus de postes durant le quinquennat. 10 000 sur les 15 000 suppressions de postes annoncées par Gérald Darmanin. Et cela essentiellement dans l'administration fiscale. Alors on peut se demander pourquoi ce choix et s'il vous semble juste aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait dégraisser le ministère de l'économie, Pierre Calfa?
Le ministère de l'économie est dégraissé depuis longtemps. Tous les gouvernements s'attaquent au ministère de l'économie et des finances. Bon, le problème, c'est que, en fait, le ministère de l'économie et des finances remplit un certain nombre de fonctions extrêmement importantes qui aujourd'hui ne sont plus remplies, hein, ou très mal. Hein, par exemple, le contrôle de la fraude fiscale, les contrôles douaniers, etc. Bon, et évidemment, cela va s'aggraver, hein, c'est une évidence. Bon, donc, le problème, c'est que dans une logique où l'objectif du gouvernement était de réduire le nombre de fonctionnaires, devant le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, il a été obligé de reculer sur un certain nombre de baisses.
C'était un objectif de 50 000 qui était donc cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron de 50 000. On est passé à 15 000.
Voilà.
Qui est une réduction drastique.
Une réduction très importante, mais qui va être payée pour les 2/3 par le ministère des Finances. Bon.
Et sur cette question, alors Virginie Pradel, est-ce qu'il fallait supprimer des postes du côté du ministère de l'économie? On voit aussi que du côté du ministère de la transition écologique, il va y avoir des postes qui seront supprimés, près de 5 000 en tout d'ici à 2022. En l'occurrence, c'est un choix qui peut largement étonner face à l'urgence climatique. Est-ce que c'est le moment de supprimer des postes au ministère de l'écologie?
Oui, mais alors comme vous disiez au début de l'émission, alors les fonds ne sont pas les dotations ne sont pas réduites, hein, c'est le nombre de personnes. Je ne sais pas ce que font ces personnes. Donc après, il faut aussi s'interroger concrètement sur les postes qui sont supprimés. Est-ce qu'ils ont encore une utilité? C'est vrai qu'il n'y a pas un besoin absolu d'avoir. Alors je vais rebondir sur un exemple que je connais mieux que celui de la transition écologique, c'est celui du ministère des Finances. On assiste depuis plusieurs années à une véritable digitalisation du contrôle fiscal, à savoir qu'aujourd'hui avec les nouveaux logiciels de contrôle, vous n'avez
vous avez besoin de beaucoup moins d'inspecteurs qu'il y a 10 ans. Hein. Ça veut dire que vous avez un robot qui va détecter toutes les erreurs. Idem pour les fraudes les plus massives à la TVA. On sait très bien qu'on a besoin de logiciels de détection précoce qui seront beaucoup plus efficaces que des armées de fonctionnaires. Après, le vrai problème, c'est qu'il faut quand même laisser des personnes dans les centres des finances publiques, parce qu'on a malheureusement une complexification de la fiscalité. Alors, bon, même si on a le prélèvement à la source, etc., il y a encore un besoin. Hein. Ça a été mis en évidence par Alexis Spire dans une étude sociologique sur l'impôt. Il disait que les gens ont besoin d'aller au centre. Exactement. Les gens ont besoin d'aller dans les centres des impôts pour poser des questions, parce qu'ils ne comprennent pas. Et
Mais en l'occurrence, ce qui a été annoncé, c'est juste la fermeture de centaines de centres des impôts avec la numérisation des prélèvements fiscaux.
Ça, c'est dommageable. C'est pas ce type de fonctionnaire qu'il faut supprimer, parce que moi, je le ressens avec des personnes, hein, par le biais de mon association. Les gens ont vraiment besoin d'avoir un retour de l'administration fiscale, parce qu'ils sont perdus, que c'est des situations qui sont très anxiogènes, et couper ce lien entre le contribuable et l'administration fiscale au niveau local peut être très dommageable.
Et puis, ça ne va pas vraiment dans le sens de ce qu'on a pu entendre au moment de la crise des Gilets jaunes. Et justement, pour répondre à cette colère contre le recul des services publics, Bercy devrait envoyer des agents en province. L'objectif, c'est à la fois de faire des économies et de renforcer les services de l'État à l'échelle locale. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Martial Foucault ?
L'idée sur le papier est plutôt intéressante, c'est-à-dire s'il faut décentraliser une partie des services publics sur le territoire, je dirais que ça va plutôt dans le bon sens de ce que cette crise aurait dû livrer comme enseignement. Moi, je suis toujours prudent parce que dans un premier temps, on a dit ce sont plutôt les chefs de service, les directeurs d'administration qui devraient de temps en temps faire un petit tour en région pour voir comment ça se passe et comprendre finalement le mécontentement des usagers. Et j'en prends un exemple ayant suivi abondamment le grand débat national un peu partout en France. La question de la dématérialisation d'un certain nombre de procédures administratives est redoutable. Redoutable en termes de désocialisation vis-à-vis du rapport à l'État. Et effectivement, on peut considérer que une trésorerie générale, c'est peut-être 5-6 personnes et qui pourraient voir leur activité remplacée par une dématérialisation. Mais on oublie un point, c'est que finalement cette crise des Gilets jaunes a révélé, au-delà de l'isolement d'un certain nombre de Français, il y a aussi un rapport à l'État qui est fondamental, parce que on peut pas simplement compter sur des élus locaux, des associations pour faire ce travail. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est contradictoire avec l'idée qui est installée depuis maintenant 15 ans d'une amélioration de la productivité des services publics, mais quand on touche à la dématérialisation, oui, on touche aussi à la déshumanisation d'un certain nombre de territoires, et tous les territoires ne sont pas égaux vis-à-vis de la présence de services publics.
Ça pose la question du rapport à l'État, Pierre Calfa, sachant que le gouvernement a quand même annoncé la création de maisons de services publics, où les citoyens pourraient également faire leurs démarches auprès de la CAF, par exemple.
Écoutez, on verra les résultats concrètement d'ici quelques années. Ce qu'on peut dire, c'est que la tendance lourde maintenant, depuis des décennies, c'est une tendance à la fermeture des services publics et les bureaux de poste ferment, les gares SNCF ferment, etc. C'est-à-dire qu'il y a une logique extrêmement profonde qui a consisté à transformer les entreprises nationales en simples entreprises commerciales. Bon, par exemple, le projet, c'est anecdotique, enfin c'est pas si anecdotique que ça par ailleurs, mais par exemple le projet qui est aujourd'hui discuté de transformer la gare du Nord en centre commercial immense et à obliger les passagers à passer dans le centre commercial pour avoir accès au train, est l'illustration caricaturale de cette affaire.
Et alors je voudrais aussi qu'on dise un mot de l'éducation nationale, puisqu'en l'occurrence on parle de la nécessité aussi d'investir davantage et de développer les dépenses dans certains domaines et dans certains ministères en crise. C'est le cas de l'éducation nationale qui va bénéficier d'un milliard d'euros supplémentaires dans son budget 2020. Un budget qui devrait permettre d'augmenter les salaires annuels pour tout le monde en moyenne de 300 euros en 2020. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, à la veille de la rentrée scolaire. Est-ce qu'il faut estimer qu'il s'agit là d'un vrai effort du gouvernement en faveur de l'école, Martial Foucault ?
C'est un sujet très très complexe et d'une certaine manière je me sens peut-être pas tout à fait objectif en parlant de ce sujet en étant moi-même enseignant de l'éducation nationale, mais je dirais deux éléments très simples. Le premier, c'est que si cet effort est réellement confirmé et exécuté en loi de finances, l'ensemble du corps enseignant, parce que cette prime concerne avant tout les enseignants du secondaire, enfin collège et lycée compris, on rattrapera légèrement la moyenne européenne. Donc ça veut dire que est quand même posée dans ce pays une question fondamentale, puisqu'on parle aussi de crise de vocation du métier d'enseignant. Il y a de moins en moins de candidats sur des supports ouverts. Donc ça pose la question, comment on revalorise une profession? Est-ce que c'est seulement l'argument...
Est-ce que 300 euros brut annuel, c'est suffisant?
Est-ce que c'est seulement l'argument financier qui va faire que tout le monde souhaiterait dans les prochaines années être enseignant? Et puis il y a une deuxième, ma réponse est plutôt non à cette première question. Puis il y a une deuxième question qui est posée. On peut pas envisager simplement de régler des problèmes de l'éducation nationale par un effort budgétaire. Il y a tellement de paramètres à tenir compte. L'évolution de la démographie. Il y a 10 ans, on ne se souciait pas et on a très très mal anticipé l'augmentation du nombre d'étudiants à l'université et qui provoque aujourd'hui des dégâts considérables. Donc il faut aussi se projeter quel est le type d'école élémentaire, collège, lycée que nous souhaitons. Non pas maintenant. Là il s'agit de, je veux dire, c'est vraiment le pansement du capitaine Haddock. C'est essayer de colmater des brèches. Non, il faut essayer de construire des budgets pour se projeter dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et c'est compliqué pour un gouvernement, parce que ce gouvernement ne sera pas là dans 5, 10, 15, 20 années. Donc, il y a toujours
un décalage. Mais investir sur le long terme, c'est d'abord investir aussi chez les enfants en bas âge, et notamment aux primaires. Et en l'occurrence, la hausse du budget pourrait permettre peut-être de mettre en œuvre les mesures annoncées par Emmanuel Macron, et notamment le dédoublement de classes dans les zones d'éducation prioritaires et la limitation du nombre d'élèves à 24 par classe en CP et en CE1 dans toutes les écoles. Ça, c'est des mesures qui ont été annoncées et qui pourraient être peut-être financées par cette hausse du budget, Pierre Calfat ?
Écoutez, je pense que les problèmes de l'éducation nationale ne se réduisent pas à des questions financières. Il y a la question des programmes qui ont été posés par les enseignants, notamment les enseignants d'économie et sociale. Bon, il y a la question de l'organisation des établissements. Il y a par exemple l'augmentation des droits d'inscription dans les universités, qui heureusement sont refusés par de nombreux présidents d'université. Bon, donc le problème de la politique menée par Monsieur Blanquer, c'est que c'est une politique où pour le moment, il essaye effectivement de colmater quelques brèches, mais dont la cohérence est une cohérence assez mortifère aujourd'hui.
Alors, on arrive au terme de ce débat. Un dernier mot peut-être, Martial Foucault, sur la philosophie générale de ce budget 2020, très rapidement.
On pourrait le requalifier de budget d'urgence par rapport à la crise des gilets jaunes, mais qui finalement, pour moi, c'est la rupture dans la continuité, c'est-à-dire que le cadre financier fixé en 2017 est plus ou moins respecté, et par rapport aussi à une sorte d'impératif européen d'être en deçà des 3% critères du déficit public annuel exprimé en PIB, et puis deuxièmement de continuer à inspirer la philosophie économique d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire la politique de l'offre est bien meilleure que la politique de la demande.
Un grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de ce débat. Merci Pierre Calfat, Virginie Pradel et Martial Foucault. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Virginie Pradel, Impomania, l'absurdité fiscale française, paru aux éditions de l'Observatoire. Pierre Calfat, Cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir, coécrit avec Dominique Plion, Jacques Rigaudia et Aurélie Trou, publié par Attac et la Fondation Copernic. Merci beaucoup à tous les trois. Yeah.
vous écoutez Keltina Wen de Tinari Wen sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver la bibliothèque de l'écho. Marguerite Caton a rencontré l'économiste Kako Nubuko, qui vient de publier chez Odile Jacob l'urgence africaine, sous titre « Changeons le modèle de croissance ». Kako Nubuko est doyen de la faculté de sciences économiques de l'université de Lomé au Togo et chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Et pour lui, l'urgence du continent africain aujourd'hui, c'est de sortir enfin de la pauvreté.
L'urgence africaine, comme je le dis souvent, c'est une urgence planétaire. Parce que c'est la première fois depuis très longtemps que ce qui se passe en Afrique peut avoir des répercussions notables sur le reste du monde en termes de stabilité géopolitique. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe en Afrique ? L'Afrique se transforme, mais pas suffisamment vite ni suffisamment bien pour répondre aux défis, notamment de sa jeunesse, qui cherche du travail.
Vous qui avez exercé de nombreuses responsabilités, vous avez été, je le rappelle, ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Vous êtes très sévère dans votre ouvrage à l'égard des élites, aussi bien des élites africaines que des élites internationales. Que leur reprochez-vous exactement ?
Il s'agit de reconnaître simplement que les élites africaines, dans leur construction historique, ont été formées pour servir l'Occident. La première école qui a été créée en Afrique, par Federbe au Sénégal en 1905, s'appelait l'école des otages. Ensuite, ça s'appelait l'école des fils de chefs. Ça veut dire que nos élites, et je le dis dans l'ouvrage, ne sont pas fabriquées par les sociétés africaines. Elles sont fabriquées pour cocher les bonnes cases de la bienséance internationale. Et du coup, elles sont pro-FMI, pro-Banque mondiale, et ne s'intéresse pas beaucoup à ce que j'appelle l'intérêt général.
Bienséance internationale, dans votre ouvrage, vous le nommez, c'est le néolibéralisme.
Exactement. Cette façon de dire que ce qui importe, ce sont les équilibres macroéconomiques de court terme, le budget et la monnaie, et ne pas se rendre compte que pour une population dont le taux de croissance est de 2,7% par an, donc qui double tous les 25 ans, il y a un enjeu majeur, c'est celui de la création d'activités. Et donc, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il y a trop de naissances en Afrique, je dis que la démographie africaine ne peut être une chance pour l'Afrique que si en face, nous avons les politiques publiques idoines.
Pourquoi l'extrême ouverture des économies africaines est-elle si problématique à vos yeux ?
C'est que l'Afrique est une terre de prédation pour le reste du monde. À l'heure actuelle, on voit bien que toutes les terres sont convoités notamment par les nouveaux pays riches, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie. Mais en même temps, les surplus agricoles européens se déversent en Afrique. Ce qui fait que vous n'avez plus d'incitation à produire localement pour nos producteurs. Or, 70% de la population africaine est rurale. Ce qui fait que si ces gens n'ont pas accès au travail, ils vont se déverser dans les villes africaines, qui concentre tout ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire la fragilité, l'extrême vulnérabilité. C'est pour ça que je dis nous devons changer de modèle de croissance, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient des activités là où ils vivent et qu'ils puissent accéder à ce que j'appelle une prospérité partagée.
Quelles sont les pistes ?
Les pistes, elles sont très simples. Il faut produire. Il faut produire, et dans l'ouvrage, je propose trois choses. Il faut augmenter la productivité agricole. Ensuite, le renforcement institutionnel, les organisations paysannes, de vraies politiques agricoles qui remettent au cœur la question de la protection. Vous savez, quand un producteur américain est protégé 820 fois plus en termes de soutien qu'un producteur tanzanien, c'est-à-dire que le producteur américain, chaque année, il a 37 000 $ que lui verse son gouvernement. Et le tanzanien, il a 46 $. Donc 820 fois moins, que vous les mettez dans le même marché, mais le Tanzanien, il disparaît. Ou j'ai envie de dire, il fuit la Tanzanie pour aller s'installer ailleurs. Donc on ne peut pas mettre dans le même marché des gens qui ont de tels écarts de productivité.
C'est à du protectionnisme que vous appelez l'Afrique ?
Oui, du protectionnisme éducateur. Il faut qu'on développe nos filières, qu'on les renforce et qu'on ouvre ces filières au fur et à mesure qu'elles sont capables de supporter la concurrence internationale. Moi, j'appelle ça la capacité à comprendre que le développement, c'est d'abord utiliser ses ressources. Or, l'Afrique n'en manque pas. La terre, le travail, les capitaux. Nous perdons 100 milliards de dollars par an de fuite de capitaux pour mettre en œuvre ce que j'appelle finalement cette capacité de s'inscrire harmonieusement dans la mondialisation. Donc, il ne s'agit pas de se protéger vis-à-vis du reste du monde. Il s'agit de préparer une entrée progressive dans la mondialisation.
Je reviens sur la question des instruments techniques de cette insertion harmonieuse dans la globalisation. Vous dénoncez assez sévèrement le franc CFA et cette perte de souveraineté monétaire.
Oui, parce qu'il y a deux enjeux majeurs quand vous avez une monnaie. Le premier, c'est financer votre économie. Or, dans la zone CFA, les taux d'intérêt que les banques donnent, c'est deux chiffres, 15, 16, 17%. Ce n'est juste pas possible.
Bien supérieur à la zone euro.
Bien sûr, où on emprunte à 1%. Et deuxième enjeu, la compétitivité. Le CFA est rattaché à l'euro, de manière rigide. L'euro qui est une des monnaies les plus fortes au monde. Et nous qui avons les économies les plus faibles du monde, nous devons utiliser une monnaie comme le CFA qui est rattaché à l'euro. Vous voyez qu'il y a un hiatus. Si on veut être compétitif à l'export, il nous faut une monnaie qui soit en phase avec les fondamentaux des économies africaines.
Ce qui implique, étant donné cet environnement mondialisé, globalisé, de repenser les relations entre le continent africain, certains nouveaux partenaires comme la Chine, certains anciens partenaires comme les puissances ex-coloniales. Comment on repense, on refonde ces relations?
Mais moi, j'ai proposé un indicateur très simple, c'est de comparer le nombre de déplacements que font les chefs d'État africains dans le reste du monde et ce qu'ils font par rapport à leur propre pays. Nos chefs d'État se baladent. Il y a tout le temps des sommets. Chine-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique, Israël-Afrique, France-Afrique. Ce qu'on leur demande, c'est de construire une prospérité qui se fonde sur les besoins des populations. Et ce que nous attendons du reste du monde, c'est de nous accompagner pour ça. Il faut que l'Occident se rende compte qu'il a une responsabilité historique vis-à-vis de l'Afrique. Et cette responsabilité historique, elle est d'ordre éthique. On ne peut pas avoir un monde partagé s'il y a juste une toute petite partie de ce monde qui a accès aux richesses. C'est pour ça que je dis que c'est la première fois dans l'histoire que ce qui se passe en Afrique peut avoir un impact sur la stabilité du monde, en termes de terrorisme, en termes d'écologie, en termes même de fiscalité. Ce que nous attendons du reste du monde, ce n'est pas de la pitié, c'est un intérêt bien compris. Parce que si nous ne le faisons pas par principe, faisons-le par intérêt. Nous serons 2 milliards en 2050. Il n'y a que 300 kilomètres de côte qui séparent la Libye de l'Italie. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on voit ce qu'il y a à faire, pour vous et pour nous.
Merci beaucoup, Kakonu Buko. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru cette semaine chez Odile Jacob, L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance.
On se quitte avec Come and Get Your Love de Redbone. La semaine prochaine, entendez-vous, L'Écho prend la route des vins. Nouvelle série consacrée au nectar des dieux. Le marché du vin se mondialise et se transforme sous l'effet du réchauffement climatique. On en parle dès lundi à partir de 14h. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
À l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, ouvrons la malle au trésor, les nuits de France Culture, Philippe Garbi.
Conserver, restaurer, mais pour qui et pourquoi? Et comment être à la hauteur du très riche héritage de pierre que l'histoire de notre vieux pays nous a légué? Réponse dans les nuits, en compagnie de l'architecte Philippe Prost et de l'historien de l'art Alexandre Gady.
Les nuits du patrimoine, ce samedi sur France Culture dès minuit. Et notez que Radio France ouvre ses portes et livre ses secrets ce samedi et ce dimanche de 9h30 à 18h30. Visite guidée, réservation, maisondelaradio.fr.
Le jeudi 26 septembre à 20h, à l'auditorium de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Joshua Weilerstein, vous invite à un voyage dans le temps. De la suite des Indes galantes de Rameau à la symphonie écossaise de Mendelssohn, de Bach à Webern, sans oublier le concerto pour violon de Stravinsky, interprété par la jeune violoniste Wilde Frang. Ce concert embrasse la vaste histoire de la musique, celle d'hier et d'aujourd'hui. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Merci d'écouter France Culture, il est 15h. Dans une heure, vous retrouverez la méthode scientifique, présentée comme chaque jour par Nicolas Martin. Mais d'abord, c'est l'heure de la Compagnie des Poètes avec Manu Farine.